Bonjour.
Vous allez loin ?
Non, je sais pas. Je me balade. Je vais par là-bas en tout cas.
Métabier, mais c'est pas loin.
Hein. Ah bah Métabier, c'est cool.
Ouais.
Je peux mettre mon sac derrière.
Eh ben merci beaucoup. Vous êtes en vacances ?
Oui, vacances, je suis de Paris moi.
Ouais, j'ai vu 75. Ouais, ouais.
Je suis fromager à Paris, donc bah voilà, et donc j'ai mes fournisseurs qui sont ici.
Et alors vous fournissez ici en Comté, j'imagine ?
Comté, Mont-d'Or, et puis le Morbier aussi.
Et alors du coup, sur le Comté, par exemple, vous le vendez combien, vous, le Comté à Paris, au kilo ?
Alors, on va encore dire qu'on est des voleurs, nous, à Paris. Bon, bah, moi, je fais du Comté haut de gamme. Bon, voilà, du bon Comté, bah, ça fait un Comté qui tourne dans les 25 euros. Hein.
25 euros le kilo ?
À peu près, en moyenne, oui.
Et ici, il est à 10, à peu près ?
Il est à 10, mais voilà. Enfin, attention, il y a Comté, Comté. Hein. 10 euros, moi, je le trouve pas.
Ah bon ?
Ah non, on ne pouvait pas le trouver.
Bah dans les fruitières, il est à 10 euros maximum.
Ouais, les fruitières, on vous vend ce qu'on veut. Hein.
On nous vendrait du faux comté dans les fruitières ici.
Ah non, c'est du vrai comté, bien sûr, mais il y a comté et comté.
Je vais peut-être vous demander de m'arrêter là, parce que moi, je vais aller sur Pontarlier après.
Sur Pontarlier, après.
Ouais, je ne vais pas rentrer là. Bon, je vous laisse terminer votre phrase.
Si on parle fromage, il y en a pour 10 ans. Moi, je suis un bavard.
Bah merci beaucoup. Vous me laissez un prénom ?
Bruno.
Merci, Bruno.
Bruno de Paris, voilà.
Bruno de Paris.
Hop. Allez, bah bon courage.
Ouais, ça marche. Si vous êtes à Paris et que vous voulez du comté, allez dans la fromagerie de Bruno et demandez-lui une ristourne parce que le comté dans le coin, il est à moins de 10 euros dans les fruitières. Let's go.
Allez.
Bonjour. Moi, je vais par là-bas. Je peux mettre mon sac derrière ?
Je peux mettre mon sac derrière.
Midi.
Une émission touristique sur la route.
Quelques kilomètres que je marche.
La rue.
Je veux faire quelque chose comme 92 degrés.
Un sac à dos.
Toujours personne.
Un micro.
Moi, je fais pas de la rando, je fais du stop, quoi.
Des vacances sur le pouce.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le pouce de la radio. Pendant une heure, on prend la route et un micro, on se laisse guider par les voitures qui veulent bien nous prendre, nous faire découvrir un petit peu leur coin ou nous emmener quelques minutes dans leurs vacances. Alors on est lâché, comme ça, sur la route, mais histoire de pas se perdre, on a avec nous un guide de position spéciale, un GPS qui a une particularité, c'est que...
Allô, je suis le GPS.
Voilà, c'est qu'il a développé une certaine intelligence, il parle et il est connecté à la toile. C'est une machine prototype, donc tout n'est peut-être pas encore au point, mais il va pouvoir nous guider, nous donner des infos sur les lieux où on se trouve.
Et j'espère que t'as bien pris ton kawaii, parce que là, c'est la saison des pluies au Kenya. Alors le temps que tu traverses les Highlands pour rejoindre l'Ouganda et le lac Victoria, tu risques de prendre des saucées sévères.
Ouais, sauf que le principe de cette émission, cher GPS, c'est de parcourir la France par les petites départementales. Ces jolies petites routes, peu fréquentées, mais bien fréquentées.
La France ?
Ouais, la France, ouais.
Ouais, ok. Bah, par contre, je vais me réinitialiser. Hein. Moi, je suis plus positionné sur les zones couvertes par les médias internationaux. Mais bon, la France, pourquoi pas ? C'est original. C'est à côté de la Belgique, c'est ça ?
C'est ça. Zoom un peu sur le sud. Là, l'idée, c'est de commencer par le premier département, le 01. Tu vois, là, on sort de Lyon par le nord. Et j'aimerais qu'on prenne tranquillement la direction
du 02.
Non, du 39, les montagnes du Jura.
Ah oui, ça y est, je vois. 01, 39. Écoute, ça tombe bien, ils sont à côté. Par contre... Faut que je check les contrats d'assurance. Je sais pas si on est couvert dans ces contrées reculées.
T'occupe et donne-moi la route.
Ok. Alors, le 01, tu vas tout droit jusqu'à la sortie de la 42 et après, au rond-point, à la sortie d'Ambérieux, tu prends la deuxième sortie, direction Ambronay.
Bah super, là je suis à Ambérieux.
Ok, Ambérieux en Bugey, 13 835 habitants, fondé en 728 par Tariq Ambarar sur un vieux site romain abandonné.
Attends, il y a une voiture qui arrive.
La route ?
Bonjour.
En promenade, je peux t'emmener.
Ah ouais, nickel.
Un sac à dos.
Je peux mettre mon sac derrière ?
Ouais, mets derrière.
Un micro. Rencontre sur le pouce.
Et vous êtes en vacances, là ?
Non, pas en vacances, non. Non, mais on va jouer au boule, tu vois, on a un bon métier.
Vous êtes bouliste professionnel ?
Non, amateur. C'est un concours de vogue. Les conscrits organisent une vogue et tous les lundis, ils font les concours de la vogue.
C'est quoi les conscrits ? C'est quoi la vogue ?
C'est les conscrits, ben c'est par exemple 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils se mettent tous ensemble, ils organisent une vogue. Avec un bal des conscrits, ben c'est un bal avec les manèges, tout ça pour les gamins. Et puis le lundi, ils font un concours de vogue, ils appellent ça. Concours des conscrits.
Donc là, c'est les conscrits d'Ambérieux ?
D'Ambronel. On va arriver à Ambronel. Toutes les semaines, l'été, ils font des... Chaque village fait son concours, ça fait du village.
C'est des fêtes où on raconte qu'on boit beaucoup aussi.
Ah, ça boit beaucoup, là. Ça, c'est sûr que ça boit beaucoup, oui. Ça boit énormément, même, je dirais. Mais bon, ça a toujours été, hein. C'est le seul plaisir que les Français ont, à part travailler et boire et puis se faire embêter. Nous, notre jeunesse à nous, on rentrait bourrés comme des quintines. À 4h du matin, tu croisais une voiture flic, une 4L ou une estafette. Bon, allez, les gones, vous rentrez, t'as ce maintenant, ils peuvent plus rien faire. Tous les jeunes qui se retrouvent sans permis, parce qu'ils ont bu deux canons, se retrouvent sans permis, ils n'ont plus de boulot. Leur vie bascule pour une histoire d'alcool. Bien sûr que maintenant, avec la route, il ne faut plus boire, mais le problème, il y a trop de monde sur les routes maintenant. Hein. Comme disait Coluche, ils nous ont tous évités, sauf lui. Pourquoi? Bon, moi, je m'arrête là, par contre.
Ouais, bah ouais, moi, je vais continuer.
Ça va?
Pas de problème.
Entendu.
Merci, c'est comment votre prénom?
Bernard.
Merci Bernard, moi c'est Olivier.
Au revoir Olivier.
Hop. Eh ben bonne vogue.
Tu fumes Olivier?
Ah bah de temps en temps. Ouais. Un paquet comme ça?
Ah oui.
Bah, pourquoi?
Comme ça.
Bah merci beaucoup. Allez, on va faire des clubs. Il faut pas fumer.
Je peux mettre mon sac derrière. Reportage sur la route.
Ambronay, dans le département du Var, et dans la grande rue d'Ambronay, on traverse le village qui est très 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 joli. Une rue assez étroite, parcourue par des guirlandes à fanions, parce que c'est, on a compris, la fête un petit peu du village. On est sur la route du Bugey, nous dit le panneau. Donc des vieilles maisons en pierre, assez basses. Madame, excusez-moi.
Oui.
Vous êtes d'Ambronay?
Pas vraiment, non.
Non, mais vous connaissez un petit peu?
Ouais, éventuellement. Ça dépend quoi.
Bah, si vous pouviez présenter Ambronay, moi je connais pas du tout.
Bah, à vrai dire, moi je connais pas grand-chose non plus, hein, par l'abbaye. Franchement, c'est tout ce que
vous
je peux vous dire.
Plus.
Non, franchement pas. Allez-y, visitez-la parce que franchement,
je vais y passer,
coup.
Ouais.
Ça vaut le coup.
En plus, il doit y faire frais.
Ouais.
Allô, Jippy.
Ouais.
C'est le moment de ramener ta science là. T'as des infos sur l'abbaye d'Ambronay? Je suis dedans là.
Une abbaye, c'est un très bon choix ça. C'est toujours important de commencer un voyage dans un lieu sacré. Reste quelques jours ici, profite de la spiritualité du lieu, ressource-toi.
Non, mais je fais que passer là. T'as pas des infos historiques sur l'abbaye plutôt?
Alors, au tout début, vers le 8e siècle, l'abbaye d'Ambronay a été fondée par un moine irlandais, Aim Rooney, sur un site qui lui paraissait propice à la méditation.
Ouais, c'est vrai qu'ici, c'est un lieu super tranquille.
L'abbaye était exclusivement réservée aux femmes. Ouais. Mais pour compenser, le moine fonda aussi le premier pub irlandais de toute la région. Un concept qui marcha assez bien et attira rapidement du monde. Mmh. La légende raconte d'ailleurs que Charlemagne y prit une cuite mythique avec un certain Patrick. D'ailleurs, check les vitraux.
Attends, il y a le curé qui arrive. Bonjour. Vous êtes prêtre ici?
Oui, je suis le curé, oui.
D'accord. Moi, Pardon? Je fais des reportages en autostop. On m'a déposé à Ambronay, donc j'en profitais pour...
Ah bon, très bien.
En deux mots, peut-être, s'il faut présenter cette abbaye.
Fondée en 801 par un certain Saint Barnard, qui n'est pas Saint Bernard.
D'accord.
Il y a eu des moines de 801 jusqu'à 1789. Après, ils ont été chassés par la Révolution. Donc, prière, travail, jusqu'en 1789, ce qui fait quasiment 1000 ans. Puis après, c'est devenu la paroisse du village. Donc, il y a ici la messe tous les jours, les enterrements, les mariages, le catéchisme, enfin, voilà.
Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est plus prestigieuse que les autres, cette...
Elle est grande, elle est entière, elle est en bon état, elle a été restaurée, elle a des vitraux très anciens en face de vous. Elle a une acoustique extraordinaire qui fait qu'il y a un festival de musique baroque à Ambronay. Hein. Depuis une trentaine d'années, il n'y a pas de micro. Donc on entend très 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 bien. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, vous irez voir dans le cloître, hein, c'est qu'il y a deux cloîtres superposés. Hein. Tellement il y avait une moine, donc il y a deux cloîtres superposés qui permettent aux moines de tourner autour. Voilà.
Mais alors qu'est-ce qui fait qu'il y a une messe tous les jours? Parce que généralement dans les villages comme Ambronay, il n'y a pas de messe. Il y a une messe tous les dimanches, voire même ça tourne entre plusieurs villages. Qu'est-ce qui fait qu'ici on a gardé une messe tous les jours, même si ça
C'est une décision du curé, c'est-à-dire de moi-même. Et parce que dans n'importe quelle paroisse, en principe, les villageois devraient pouvoir communier à la messe tous les jours. Ils devraient pouvoir, même s'ils ne sont pas libres ou s'ils n'ont pas le temps, ils devraient pouvoir. Alors ils le peuvent. Voilà, je vous abandonne à votre triste sort. Moi, je vais prendre mon train.
Mon triste sort. Eh bien, bon voyage.
Y'a l'eau bénite là. C'est bon. Toujours boire un petit peu d'eau bénite avant de reprendre la route. Ça va me porter bonheur.
Je peux mettre mon sac derrière.
Ok, la radio sur le pouce.
Ouais.
Maintenant, il s'est arrêté. Toujours personne depuis quelques kilomètres que je marche. On doit faire quelque chose comme 87 degrés là. Sortie de rond-point avec pas d'arbre, donc pas d'ombre. 1h de l'après-midi. Parfait. Je vais cuire là. Je vais cuire.
Mettre mon sac derrière.
Département de l'Ain.
Une émission touristique sur la route.
Sur la route du Bugey, en direction de la vallée de l'Ain.
Ouais.
Vous allez où ?
Bonjour, par là-bas.
Je vais pas très très loin, quelques kilomètres.
Merci beaucoup.
Nous sommes en vacances là.
D'accord. Vous êtes du coin ou ?
Non, du tout, mais on a de la famille dans le coin. Mais on vient de la région parisienne.
Alors comment décrire justement, par exemple pour les Parisiens, quand vous rentrez chez vous, comment vous décrivez la vallée de l'Ain, vous ?
Il y a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière, de l'air plus respirable. Moi, c'est plus l'environnement qui m'intéresse, ouais. Vraiment l'environnement. Et les gens sont sympathiques, il n'y a pas de problème. Et voilà. Mais question relief, question ambiance, beaucoup plus riche que la région parisienne, je trouve.
Ouais.
D'un point de vue nature, hein, je parle. Hein. Après, ouais. Si on parle d'un point de vue urbain, effectivement... Je pense que tous les Parisiens n'aiment pas aller prendre l'air, ça c'est une vérité. Il y a plein de Parisiens qui ont peur de la campagne, sont tellement habitués au bruit, à l'ambiance de la ville que ça leur fait peur. Mais c'est hyper important pour retrouver ses marques, ses racines. Ouais, c'est bien. Le milieu urbain, c'est un milieu intéressant, mais c'est un milieu où on perd vite sa personnalité aussi.
C'est-à-dire ?
Bah, on côtoie beaucoup de gens. Donc rester soi-même au milieu de tous les gens qu'on côtoie, de tous les rôles qu'il faut tenir, c'est pas mon cas. Mais tous les rôles qu'il faut tenir, c'est quelque chose qui est pas facile, quoi.
Ouais.
Ici, on est moins sollicité par le regard des autres quand même. On est plus libre de ses mouvements, plus libre d'être soi-même, tout simplement.
Et les enfants ?
Je trouve ça super, l'Ain, c'est super cool. On peut se baigner dans l'Ain, alors qu'à Paris, la Seine, on peut pas trop parce que c'est super pollué. Puis c'est super beau. J'ai ma mamie qui habite ici, j'ai mon tonton. Je suis content de les voir quand je viens en vacances.
Toi, t'as quel âge ?
J'ai 13 ans, je vais avoir 14 ans en septembre.
Toi, dans l'avenir, tu te vois vivre ici, par exemple ?
Peut-être. En tout cas, je pense pas que je vivrai en ville. Dans un bureau, je pourrais pas rester sur place. Ce serait trop dur pour moi.
Et alors, toi ?
Bah, c'est totalement paumé. C'est pas du tout la même chose que Paris, c'est sûr.
Toi, mais t'as quel âge ?
J'en ai 16.
Et toi, pareil, tu te verrais vivre dans un monde comme ça, de la campagne ?
Bah, j'aimerais bien, mais quand je serai vieille, quand j'aurai terminé mes études.
Mais quand tu seras vieille, quand tu as terminé tes études, ou quand tu seras vieille, quand tu seras à la retraite ?
Plutôt à la retraite.
Plutôt à la retraite.
Ouais. Il me faut des villes pour faire mes études et travailler, je pense. Parce que... Après, c'est compliqué, les déplacements et tout.
Vous me laissez vos prénoms ?
Ouais. Bah, moi, c'est Alain.
Moi, c'est Luna.
Luna ?
Luna, oui.
Moi, c'est Mathéo.
Et Mathéo. Eh ben merci beaucoup.
Je t'en prie, bon courage à toi.
Je peux mettre mon sac derrière.
Route de Poncin sur la commune de Serrières, à la sortie du hameau Merpuis. On se dirige en direction de Thoirette du Jura et c'est vrai que le relief commence à prendre de plus en plus forme. On commence à voir des parois rocheuses qui montent de plus en plus haut. Je vois des deltaplanes là-haut. Il y a une buse qui nous survole, des grandes étendues vertes et on rentre dans les gorges de l'Ain. Hop, je rallume mon guide de position spéciale. GPS ?
Oui, Sartek, tu viens d'entrer dans la vallée de l'Ain.
Ouais.
Alors l'Ain, c'est le nom de la rivière.
Bah, merci.
Et Aïn, ça veut dire l'œil ou la source en arabe.
Aïn ? Ok, je ne savais pas.
Ouais. Tu dois voir des falaises au loin.
Ouais, absolument.
Eh bien, les Celtes hirsutes vivaient là depuis la nuit des temps.
Ah ouais ?
Et c'est ici que les cavaliers arabes franchirent le guet en l'an 213 après l'Hégire et établirent leur campement sur la rive de l'Est, au confluent de l'Aïn et de la rivière Al-Bahrain.
Ouais, l'Al-Bahrain, je l'ai passé tout à l'heure en Berrieux.
Ouais, en arabe, ça veut dire les deux lacs. D'ailleurs, la plupart des villes de l'Ain ont des noms arabes. Voibourg-en-Bresse, c'est Borg al-Bahras, et en Berrieux, c'est Amr al-Bahar.
Mais t'es sûr que ça vient de là ?
Certain. D'ailleurs, si tu fais attention, dans la plupart des villages de l'Ain, la poste est tournée vers la Mecque.
Nous sommes des amoureux de la montagne jurassienne.
Ah, voilà. Donc là, on y entre un petit peu.
Ah oui, on y entre, là, oui. On est en plein. Là, c'est... De ce côté-là, c'est ce qu'on appelle la petite montagne. Là, c'est ce qui sépare la vallée de l'Ain de la Bresse. Là, on traverse oui, un petit abois avec des maisons. À voir le type des maisons, je pense que ce sont des constructions qui ont été faites pour les employés des centrales électriques. Parce que l'Ain était relativement tôt, disons, utilisé pour la production hydroélectrique. Sachant que l'équipement de l'Ain s'est terminé dans les années 60 par la construction du barrage de Vouglans, qui est la pièce maîtresse de l'équipement de l'Ain.
Alors, nous sommes au barrage hydroélectrique de Vouglans. Il y a une énorme retenue d'eau.
Il y a un grand mur.
Ah, il est impressionnant. Hein,
oui, c'est impressionnant. 545 000 mètres cubes de béton.
À une hauteur de 130 mètres. Troisième lac de retenue de France.
C'est vrai qu'au niveau touristique, ça a permis le plan d'eau de valoriser toute cette partie du Jura qui était un petit peu délaissée.
Le site est sous vidéosurveillance. Et attention, vol fréquent dans les véhicules prévient la gendarmerie.
De nombreux ouvrages hydroélectriques depuis les renforcements des plans Vigipirate, on ne peut plus du tout accéder.
Mais en vous, c'est des constructions que vous appréciez particulièrement ?
Oui, oui, moi j'ai toujours aussi été un petit peu passionné par l'énergie. Bon, les énergies comme l'énergie hydraulique, une énergie renouvelable, ça a peu d'impact sur l'environnement vu que c'est souvent des sites existants déjà. Bon, ça c'est différent, ça a un impact important sur l'environnement. Parce que construire un lac qui est presque aussi grand que le lac d'Annecy, je crois, en superficie, ça modifie automatiquement beaucoup de choses. Mais bon, après, ce sont des choix.
Ça fait polémique à l'époque. Hein.
C'était quand même...
Parce que c'était une vallée, ils ont noyé des villages et ils n'ont pas pu les déplacer entièrement. Au fond, il y a une chapelle qu'ils n'ont pas pu déplacer, qui reste. Il y a les ruines au fond de l'eau. Quoi. Donc, c'est le côté positif qui fait que maintenant, c'est très touristique parce qu'il y a moyen de se baigner. Mais ça a quand même été un arrachement pour tous les gens qui vivaient au fond de cette vallée-là, quoi, qu'on a viré. Quoi. Il y a un morceau d'un bâtiment qui a été reconstruit un peu plus haut, justement, pour essayer de conserver une petite trace de ce qui se passait en bas dans la vallée. Quoi.
Et vous, pourquoi vous avez choisi ce coin-là, alors, du coup ?
Mais moi, ma mère est jurassienne, en fait. Ma mère est née à Orgelet.
D'accord.
Je sais pas si vous avez traversé le bourg, qui est un petit peu plus loin.
Non,
et toute ma jeunesse, ma maman était institutrice, toute ma jeunesse, hein, toutes les vacances scolaires, on était là, il y avait tous les vacanciers qui venaient régulièrement, on se rejoignait, enfin voilà, c'était vraiment ma première sortie en boîte, ça a été ici, voilà. Les gens d'ici restent des montagnards avant tout, avec tout le côté positif et négatif qu'on peut y attacher. Ça, c'est des gens qui sont un petit peu rudes, un peu difficiles d'accès, un peu, vous savez, vieux fermier dans sa ferme qu'il faut pas en bistrouiller et compagnie, et en fait c'est des gens super chaleureux qu'on connaît, quoi. Moi j'adore, moi tous mes souvenirs sont ici et c'est une région qui est jolie en toute saison, c'est à dire qu'en hiver pour ceux qui aiment la neige, même ici à ce niveau là c'est quand même que du bonheur. Alors il y a beaucoup d'Hollandais, mais il n'y a pas énormément de touristes, je trouve. Et on a presque envie de leur dire qu'il faut surtout pas venir, quoi, parce que c'est vraiment pas bien. Comme ça, les plages sont pas bondées. Non, c'est chouette comme région. Il y a une vraie histoire. Il faut aller à Lons-le-Saunier. Il y a la fromagerie, la vache qui rit. On a tous mangé de la vache qui rit gamine. Bah, c'est là-haut que c'est fabriqué. Le comté, il faut aller visiter une fruitière si vous avez l'occasion. C'est des odeurs, des... voilà. Moi, je suis amoureuse de la région. Alors, j'y habite pas. Hein. Faut pas venir. Là, c'est Pont-de-Poite. Ouais. Bonne route.
Merci beaucoup en tout cas.
C'est un plaisir de te rencontrer.
C'est quoi vos prénoms ? Alors Olivier.
Olivier et Annick.
D'accord, moi c'est Olivier aussi.
Ah bah c'est très facile.
Et toi, et
Louise.
Du coup
Louise.
Elle est timide.
Ça va, les vacances avec les parents, c'est pas trop relou?
Non.
T'as pas envie de te barrer en stop?
Non.
Non, mais ça va pas, non. Bon, Philippe.
Waouh. Pont de Poite. Village très très paumé, là, y a personne. JP, JPS, t'es là?
Ouais, ça y est, Pélo, t'es dans le Jura.
Je crois que je vais galérer, là.
Le Jura, c'est le 39.
Ouais.
Ouais. Donc tu feras attention, à la différence des gens du 42 et du 77, les gens du 39 se font 3 bises pour se dire bonjour, en commençant toujours par la droite, voire 38, 24 et 52, donc pas d'impair.
Non mais là, tu sais, j'en suis pas vraiment encore à faire la bise aux gens, là, y a personne.
Bon, dans le 39, les femmes qui ont déjà eu des enfants portent des épingles à cheveux orange. Les enfants doivent traverser la rivière au mois de février, le jour de leurs 7 ans, et se moucher dans ses doigts est très 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 mal vu.
Qu'est-ce qu'il raconte là?
Les Jurassiens, des gens fiers, partageurs, mais bipolaires. Un peuple souriant, taquin, mais néanmoins susceptible. Un peuple sincère, accueillant, mais en proie à l'amnésie.
Eh, ça suffit là, t'as pas des vraies infos? On m'a parlé d'un village englouti quand ils ont construit le barrage de Vouglans. T'as rien là-dessus là, plutôt que tes digressions
Ah, on t'a parlé du village englouti?
Ouais.
C'est une histoire bien étrange. On dit que chaque année, le 2 décembre, l'ancien boulanger sort des eaux et dépose une bannette sur la grève. Dans la brume de novembre, parfois on croit voir émerger des eaux la forme d'un car scolaire des années 60. Un vrai mystère, ce village englouti. D'ailleurs, il y a le club de plongée du Vouglans. Tu peux aller nager dans le village?
Non, non, mais là, JP, il est trop tard. Je vais essayer de sortir de Pont-de-Poite pour trouver la route qui va vers Clairvaux. Enfin,
non, mais c'est idiot, on dit qu'il y aurait aussi des sirènes.
Mais non, c'est bon, je te dis, je suis fatigué. J'ai fait 250 km depuis ce matin.
Mais enfin, on aurait vu un poulpe géant.
C'est bon, JPS. Je vais me poser dans la montagne pour bivouaquer. On verra tout ça demain. Et je crois que t'as aussi besoin d'un bon repos.
D'accord, comme tu veux. Par contre, fais attention dans ces forêts. Les enfants soldats n'ont pas complètement disparu.
Ouais, c'est ça.
Je peux mettre mon sac derrière.
Ah. Il doit être 10h du matin. Après une nuit à bivouaquer sur le pic de l'Aigle, une montagne qui culmine à 1000 mètres, qui surplombe plusieurs lacs tout autour, et depuis laquelle on a une magnifique vue à 360 degrés, les plaines de l'ouest, le Mont Blanc à l'est, et un peu sur le flanc de cette montagne, j'avais pas vu hier, mais je me rends compte qu'il y a un campement de scouts.
Et je suis fier d'être bourguignon et pas breton.
Salut.
Ah putain. Excuse-moi, j'ai eu peur.
Je fais des reportages en autostop là, j'ai dormi un peu au-dessus et je vous ai entendu chanter.
Ah d'accord.
Et je me suis dit, mais qui sont-ils?
Bah en fait on est des scouts d'Europe. Donc on campe ici depuis deux, trois semaines.
Vous êtes combien?
On est 8. En fait, on est par patrouille de 8. Donc on est, ils ont entre 12 et 18 ans. Donc il y a le chef de troupe, donc c'est le grand chef. Et après, la troupe, elle est composée de patrouilles. Et dans chaque patrouille, il y a un chef. C'est celui qui a le plus d'expérience. Bah, son but, c'est d'être guidé, emmener les petits, leur apprendre un peu ce qu'on sait. Faut faire un peu de tout, faut faire du management, faut gérer les engueulades, faut quand même gérer toutes ces petites histoires-là. Après, ceux qui veulent pas faire la vaisselle parce que je l'ai faite hier.
Du coup, toi, t'as quel âge?
Du coup, j'ai 17 ans et demi.
Donc t'es le plus allé, y a aucun majeur avec vous dans la patrouille?
Là, non. Nous, on est scouts d'Europe, donc on est catholiques. On a mis une croix dans le coin de patrouille. Tous les soirs, on fait une prière en troupe. Enfin, c'est pas... ça prend 10 minutes, hein, mais... Mais ouais, si, on fait quand même des prières.
Et y a pas de filles dans votre patrouille?
Alors non, y a des groupes de filles et des groupes de gars, mais on campe pas ensemble, parce que s'il fallait toujours qu'on attende les filles, ça serait pas top, quoi. Enfin, non, mais les filles sont très bien entre elles, les mecs sont très bien entre eux. Enfin, dans le cadre d'un camp, ça sert à rien de les mettre ensemble, parce que, bah, y en a qui veulent pas faire ci, y en a qui veulent pas faire ça, et donc, du coup, on fait rien, quoi. Enfin, à mon avis.
Comment ça se passe pour l'alimentation? Je vois que t'as un arc, vous allez chasser?
Non, c'est pas un arc.
C'est... Ça, c'est un staff. Donc, en fait, c'est toutes les patrouilles, elles ont un totem, un nom d'animal. Donc, nous, on est la patrouille du cerf. Ouais. Et ça, en fait, c'est le staff, c'est un emblème de la patrouille.
Un peu comme un drapeau, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est un drapeau, c'est un peu un signe de ralliement. Et c'est un peu sacré, ça, c'est le truc du chef.
Honneur et ardeur, du coup.
En fait, ouais, la devise de la patrouille, c'est « Serre pour l'honneur, ardeur ». Quand on fait des rassemblements, donc on met toutes les patrouilles ensemble. Donc on fait un truc en forme de carré avec tout le monde. Et au début de chaque rassemblement, tout le monde crie son cri de patrouille. Donc ça a de la gueule.
« Serre pour l'honneur,
ardeur !»
Est-ce que c'est pas un peu joué aux militaires aussi, les scouts?
Des fois on a des vestes militaires, mais c'est surtout parce qu'elles sont solides, c'est pas parce que c'est pas vraiment un désir d'être militaire, et voilà. Enfin, le scoutisme c'est vraiment un truc où tout le monde est uni et tout ça, c'est pas vraiment l'idée de tuer le gars en face. Après oui, il faut que tout le monde marche à la même vitesse, faut que ça avance quoi, mais c'est pas... Il y a pas trop d'aspect militaire.
Tout à l'heure tu parlais des lois de scout.
Ouais, il y a la loi scout.
Ceux qui enfreignent la loi, qu'est-ce qu'ils ont comme sanction?
Ils font des pompes.
Ah! Non, qui a fait des pompes sur ce séjour?
Oh, je pense qu'ils ont tous
fait. Tout le monde a fait des pompes.
Ouais, t'avais pas de bras, toi.
C'est surtout aussi quand on nous interroge sur les lois, qu'on les sait pas, on nous fait faire juste des pompes pour nous dire qu'il faut les apprendre, quoi. C'est pas...
C'est pour ça que t'as fait des pompes, là, sur ce séjour?
C'est ça, oui.
Pourquoi t'as fait des pompes, toi?
Moi, c'est parce que j'ai piqué le fagnon du...
Ah, les
bandages.
Ouais.
Donc je me suis barré avec, donc j'ai dû faire 45 pompes.
45 pompes.
Et sinon on peut leur faire la vaisselle, des trucs comme ça. Quoi.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Alors là il y a deux patrouilles, il y a le faisan et le sanglier qui s'entendent super bien et il y a des fois ils s'amusent à se balancer des conneries entre les coins de pattes. Donc là ils étaient en train de faire une joute du les faisans sont des homosexuels et il y a le sanglier qui répliquait et il y a le faisan qui répliquait que le sanglier sont des homosexuels et voilà.
D'accord. Et du coup être homosexuel c'est pas bien?
Quoi? Non, c'est pas ça, c'est juste pour la petite chanson, je sais pas si vous la connaissez.
Non.
Bon, en gros, c'est on met qui on veut et ça fait machin, sont des homosexuels.
C'est
et voilà,
pour c'est, rire, quoi,
c'est mais pas... c'est, voilà, c'est bienveillant, c'est toujours pareil, c'est pas.
C'est pour se marrer, hein.
C'est ça, c'est juste pour s'amuser et.
Oh,
Pierre oh, non, bah, je vais continuer ma route, moi.
D'accord.
Merci bien.
Merci,
salut.
Des champagnes, approchez un peu, et vous vendez d'Espagne, malgré tous vos feux. Amis de l'ivrogne, réclamez vos droits.
La route, un sac à dos, un micro, rencontre sur le pouce.
Je peux vous emmener à Saint-Laurent.
Eh ben super. Alors la limite Jura-Doubs, elle se situe pas loin, non?
Non, elle se situe à 10 km. D'ici, moi où je vais m'arrêter, eh ben on sera à 1 km de la limite, quoi.
C'est une vraie frontière?
Non. Des fois, il y a une petite rivalité entre le Jura et le Doubs, et ça, c'est à pleurer de rire, pour pas pleurer tout court. Mais...
Pourquoi?
Parce que c'est ridicule. Faut pas bâtir des murs où il y en a pas.
Et vous faites quoi comme boulot dans le coin?
Moi, je suis horloger. Je travaille chez Bulgarie, en fait. Donc, c'est de la haute horlogerie.
Alors, il y a un temps, on disait que pour voir si on avait réussi sa vie, c'est voir si on avait une Rolex au poignet à 50
ouais.
ans.
Ah, des conneries comme ça, ouais, il y en a régulièrement qui en disent, ouais. C'est clair.
C'est des conneries pour vous?
C'est énorme.
Pourquoi?
C'est pas pire. Parce que j'ai beau aimer beaucoup l'horlogerie. Franchement, une montre, c'est quand même juste pour donner l'heure, quoi, clairement. Bah pour moi, c'est pas un marqueur de réussite du tout. Du tout. Une montre, ça donne pas forcément le sourire. Ou si c'est le cas, s'il y a que ça qui donne le sourire dans la vie, c'est grave. Hein. Les marqueurs de réussite, je sais pas. Moi, il faut avoir la banane, ouais, c'est ça. Et mon point de vue, c'est pas possible d'être de droite. C'est juste pas possible. Même parce que. Parce qu'il y a trop de laissés pour compte, quoi, je veux dire. Et par contre, la gauche, faudrait vraiment qu'il soit vraiment de gauche, quoi. Parce que là. Ça fait de la peine. Puis c'est pareil, il y a une chose qui est primordiale, et puis voilà, c'est les écolos, quoi. Ils t'émerdent trop mal, les gars. Ils ont l'avenir de la planète entre les mains, et puis ils se tirent les cheveux, quoi, comme des gosses dans une cour de maternelle. Ça prend de la peine, eux aussi.
Dans le coin, il y a des projets un peu qui mettent à mal l'écologie un petit peu dans votre coin.
Ah bah ouais, Mitalier, c'est une station où ça tourne la thune. Enfin, c'est une des plus grosses stations du coin, quoi. Il y a les Rousses, ouais, et il y a Métabier, quoi.
Ça draine, j'imagine, de l'emploi, de l'économie.
Ouais, c'est clair. Et ça draine beaucoup de touristes, surtout. Donc, ça, il y a des répercussions qui sont énormes en hiver, même en été, d'ailleurs. Ça serait une erreur de ne pas profiter de ça, mais dans le respect, quoi.
C'est-à-dire, dans le respect, il y a des inquiétudes?
Tout pour le business, à Métabier, on voit quand même qu'il y a quand même un petit peu d'esprit, quoi. Il y a juste à se promener dans les rues.
Je peux mettre mon sac derrière. Une émission touristique en stop.
Voilà, alors là, vraiment, vraiment bravo. Bon, s'il y a bien une catégorie de véhicules qui m'a jamais pris en stop durant ce voyage et durant tous les précédents, en 15 ans de stop, en 100 000 km de stop, en France, en Europe, jamais, jamais j'ai été pris par un camping-car.
Je peux mettre mon sac derrière.
JP ? T'es là ?
Ah bah c'est gentil de me rallumer. J'ai commencé à m'ankyloser. T'es où là ?
Bah ce serait plutôt à toi de me dire ça là, je suis en direction de Métabier.
Alors Métabier, 46 degrés nord, 6 degrés est, département du Doubs, météo fraîche.
T'as des infos moins formelles là ? T'es censé être un guide électronique intelligent.
Oh, doucement, je me réveille là. Métabier, c'est avant tout une station de sport d'hiver du futur, Inch'Allah.
Sport d'hiver du futur, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'en 2045, avec le réchauffement climatique, Courchevel sera en phase de démontage, les deux Alpes seront en ruine, les téléskis de l'Alpe d'Huez feront le bonheur des ferrailleurs indiens, et Métabier sera devenu le plus grand domaine skiable d'Europe.
Arrête.
Ah, je te jure, ce petit village qui compte aujourd'hui 1000 habitants sera plus peuplé que Lyon et va devenir une ville champignon bâtie sur l'or blanc. Genève ne sera plus qu'une bourgade de sa banlieue.
Non mais comment c'est possible cette histoire ?
Eh bien c'est parce que le sous-sol du coin est très riche. Du gaz sunni, du gaz alaouite, du gaz de schiste et même du gaz moutarde. Mais le véritable secret, c'est que le village mise dès aujourd'hui sur la production de neige artificielle, des pelletées de neige, de la poudreuse made in France en veux-tu en voilà qui sera exportée jusqu'au Qatar.
Ouais. Ça va pas mieux, toi.
Alors, la station de Métabier, bah, vous l'apercevez. Et puis, vous apercevez aussi une particularité, bah, là, qui est un petit peu cachée par les arbres, mais qu'on va voir. C'est des travaux qui sont en cours sur la station de Métabier. Donc là, on est à vol d'oiseau à plus de 10 km. Et on peut apercevoir les travaux qui sont en cours. Ce sont les travaux d'une réserve collinaire que vous voyez, cette partie jaune sur le...
C'est la partie qui a été déforestée.
Voilà, plus de 100 000 m3 de réserve d'eau et avec une usine à neige qui sera construite sur le site qu'on voit là au loin.
Et là, on est quoi ? On est à 1500 ?
Là, on est aux alentours de 1000 mètres et le Mont d'Or est à 1400 et quelques mètres, 1460, j'ai plus le chiffre exact, voilà. Donc l'objectif, c'est de pouvoir enneiger même lorsque les précipitations n'auront pas été présentes pour être sûr de garantir une neige. Bon, garantir, on n'est pas sûr non plus parce qu'on sait qu'en période de réchauffement climatique, si les températures sont trop élevées, malgré l'usine, ça sera peut-être difficile de produire de la neige.
Du coup, vous m'emmenez un petit peu me balader, vous avez un peu de temps ?
Écoutez, si vous avez un peu de temps, moi je peux vous faire découvrir un petit peu ce merveilleux paysage. Alors, vous voyez la beauté des pâturages, de ce pré-bois, hein, c'est-à-dire on voit que c'est pas uniforme, on voit des parties boisées, on voit des buissons, on voit des parties de prairies, et c'est ce qui fait le charme finalement de cet alpage en fait.
Vous avez grandi dans ce décor ?
J'ai grandi dans ce décor parce que je suis aussi issu d'une famille d'agriculteurs. Mon frère est agriculteur.
Producteur de lait, du coup.
Voilà, producteur de lait à compter. Alors, autre caractéristique des routes d'alpage, sont les passages canadiens.
Ah, c'est ça qu'on traverse qui font du bruit.
Voilà, ça fait du bruit, mais ça empêche surtout les animaux de passer et ça permet aux véhicules de ne pas s'arrêter. Voilà. Donc là, on arrive sur le parking du Mont d'Or.
On est au sommet. Ah ouais.
Je me
vous laisse apprécier le paysage avec ce rayon de soleil là-bas.
Ah ouais, on arrive en haut du mont et on va découvrir tout le paysage au sud. Waouh, ouais.
Je crois qu'il fallait pas louper ça. Vous allez avoir l'impression du vide.
Ah ouais, là ils ont fait une infrastructure juste au bord de la falaise avec un grillage pour pas tomber. Effectivement, on peut vraiment se pencher presque dans le vide en toute sécurité. Avoir une belle sensation de vide tout au long de cette falaise en haut du Mont d'Or.
Cette sensation d'espace aussi. Hein. D'avoir un champ de vision jusqu'à l'horizon sans rien avec cette vue. Je pense qu'on ne voit pas loin de 70-100 km hein, pratiquement. Voilà, bah profitez bien de ce beau paysage, ouais, et quand c'est bien dégagé, en fait, vous avez toute la chaîne des Alpes qui est visible.
Donc là, finalement, c'est la fin des montagnes jurassiennes. Après, il y a donc toute la plaine et au fond, c'est les Alpes.
Voilà, tout au fond, donc vraiment sous les nuages, là-bas, c'est les Alpes.
Vraiment une vue à 360 degrés.
Donc voilà, potentiellement sous nos pieds, il semblerait qu'il y ait du gaz de schiste à 2000 mètres sous nos pieds.
On sent l'énergie qui remonte hein, quand on marche.
Alors la particularité, c'est que Celtic Energy, c'est une société anglo-saxonne. Ils ont pour une première fois mis des chiffres sur la table vis-à-vis des maires, des communes, sur le permis des moussières. Et c'est pratiquement dérisoire en termes d'emploi. C'est une vingtaine de chauffeurs de camions et quelques emplois comme ça. Mais l'autre particularité, c'est que Celtic Energy a aussi les permis qui sont de l'autre côté adjacent, c'est-à-dire en Suisse.
Ah oui.
Et notamment le permis de Noiraigue qui avance énormément aussi. Donc on est un petit peu pris en sandwich entre les deux.
Pas de frontière pour le gaz de schiste. Quoi.
En sous-sol, non.
Alors du coup, ici, on est dans une zone magnifique, touristique. Il y a 2-3 familles qui se baladent. L'hiver, il y a la neige et le ski. C'est vraiment sur cette montagne qu'on prévoit des forages, du coup.
Voilà, donc le gaz de schiste, en fait, il est sous nos pieds, mais pas avéré. Donc c'est une partie, je pense, qu'ils vont essayer de prospecter, même s'ils n'exploitent pas, pour au moins identifier la réserve. Donc vous avez ici le village de Jougne. Jougne, c'est le fameux cours d'eau, la Jougnona, où vont être pompées l'eau qui sera remontée à la réserve collinaire. Et donc vous voyez, l'eau sera pompée tout en bas dans le fond de la vallée. Là. Donc vous voyez le dénivelé, les 500 mètres, on les voit tout à fait à vue d'œil. Voilà.
Ah oui, c'est impressionnant.
Et donc au bout de ça, il y aura une station de production qui va consommer normalement 2250 kVA. C'est-à-dire que pour produire cette neige, il faudra l'équivalent de consommation électrique de 375 maisons.
Juste pour faire fonctionner l'usine à neige.
Juste pour faire fonctionner l'usine à neige. Voilà, donc encore quelques mètres et puis on va arriver sur le chantier. Toujours cette vue magnifique sur le paysage. On a de la chance avec le temps parce que
l'orage est pas loin, mais il est vraiment sur la montagne d'à côté. On voit les éclairs, on voit la pluie qui tombe. C'est toujours super beau quand on voit les pluies qui tombent au loin. Des sortes de coulées de nuages.
Hop. Simplement attention, les barrières sont électrifiées.
On va essayer de ne pas prendre le jus en passant la clôture. Hop. Ah oui.
Voilà le chantier qu'on découvre.
Ouais, ça change tout de suite l'ambiance après les paysages magnifiques. On découvre des pelleteuses qui creusent.
Ça ressemble à une énorme carrière. Ces carrières qu'on voit des fois, je veux pas comparer à l'Australie ou les mines de cuivre en Afrique, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant.
Alors ce chantier, il est là depuis quand ?
Ça a démarré au printemps 2013. Il a fallu d'ailleurs déneiger quelques routes pour pouvoir accéder et puis commencer les travaux assez rapidement. Puisque... Voilà. Et donc là, ils sont en train de briser la roche. Il y a eu pas mal de tirs de mine pour casser la roche. Donc les matériaux qui sont récupérés vont être utilisés pour créer 2 digues de chaque côté. Des digues entre 9 une dizaine de mètres de hauteur à peu près de chaque côté. Et donc la réserve se constituera de l'espace creusé à l'intérieur des 2 digues en fait. On n'imaginait pas quand même de tels travaux qui soient si impressionnants. Vous avez vu tout à l'heure, on les a vus à pratiquement 10 km. On n'est peut-être pas à la taille de l'aéroport de Nantes ou des lignes NGV, qui sont souvent des projets qui ont beaucoup plus d'emprise foncière. Mais malgré tout, quand on voit aujourd'hui dans le cadre dans lequel on se trouve, et puis surtout dans la perspective d'avenir, c'est-à-dire que demain, si le réchauffement climatique se confirme, avoir une usine de production à neige, si on n'a plus les températures pour la faire fonctionner correctement, c'est une problématique. Et puis l'autre paramètre, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire une réserve de 108 000 m3 pour produire de la neige artificielle, alors qu'on a un déficit de plus en plus récurrent et puis des difficultés de plus en plus prégnantes sur le secteur à l'approvisionnement en eau potable. Donc il y avait peut-être des priorités qui auraient dû être mises en avant, à mon avis, avant de rentrer dans des projets aussi grands que ceux-là. Tous les villages ont la même problématique aujourd'hui de protection des sources et de captage. Hein. Le lac derrière de Malbuisson est une grande source d'approvisionnement, mais on a vu aussi que ça avait ses limites. Quand on est en période de sécheresse, quand tout le monde s'approvisionne sur le lac, on a un niveau du lac qui baisse désespérément et qui atteint des limites qui peuvent être, je pense, dommageables pour certaines espèces et pour le lac en lui-même.
Qui finance tous ces travaux-là ?
Alors, le Conseil Général finance à 3 millions d'euros et le syndicat mixte, donc qui est le syndicat qui gère la station, de l'ordre de 4 millions d'euros. C'est ce qui est écrit sur le panneau en bas du chantier. Là. Voilà.
Donc un coût total de 7 millions d'euros ?
Normalement 7 millions d'euros sur le surplan. Hein, toujours, bien sûr, on sait que les travaux en général sont rarement à la hauteur de ce qu'on estime.
Donc un coût qui est complètement assumé par les collectivités locales et le département.
Il se trouve qu'effectivement, le maire de Métabier est un acteur majeur du tourisme. Donc le projet effectivement est soutenu par la mairie de Métabier.
Le maire de Métabier, c'est qui ?
C'est Monsieur Gérard Deck.
D'accord. Et de quelle couleur elle est ?
Ça, je ne saurais pas vous dire, parce que vous savez, dans le Houdou, on ne fait pas de politique. Donc voilà, on ne fait pas de politique.
Sans étiquette.
Voilà. Et donc Gérard Deck, qui est maire de Métabier, il est aussi directeur du centre de vacances Azureva. Voilà.
Salut les vaches! Ça va? Qu'est-ce que vous pensez alors, vous, de tout ça?
Elle me donne un coup de langue. Hé, hey, faut pas me manger. Alors la vache. Elle m'a fait des grosses léchouilles, je crois que je lui ai tapé dans l'œil.
Ah, les vaches sont des animaux curieux. Hein. Elles sont curieuses de tout ce qui se passe.
J'aurais préféré vous montrer un autre spectacle que celui-là aujourd'hui, mais malheureusement, il est devant nos yeux et il faut faire avec. Et on est un petit peu triste quand même pour le paysage et puis pour notre montagne. Et on peut imaginer ce que serait à la limite des forages pétroliers sur le secteur. C'est dans le même esprit de préservation de ce patrimoine qu'on voit ce chantier-là et qu'on a ce regard un petit peu critique sur ce chantier.
Je peux mettre mon sac derrière.
Si, vous voyez ce paysage-là, vous avez des gens qui ont conservé les haies. Vous avez d'autres endroits où on voit des grandes, grandes surfaces qui sont complètement découvertes. Vous voyez. Alors que là, on a un paysage qui est particulier. Ouais. Pareil ici, vous avez des grandes
surfaces. C'est plus parcellisé. Voilà.
Et là, si je ne dis pas de bêtises, on est au-dessus de Rogent.
Parce que Rogent a une réputation d'être plus...
Rogent, vous avez quand même une ferme qui est la batailleuse, qui est une ferme qui travaille en bio, qui est respectueuse de l'environnement, de toutes ses pratiques. Quelque part, vous voyez, cette pratique, elle se retrouve même dans le paysage. Quoi. Traditionnellement, toutes les fermes ici sont des fermes avec des bovins, des vaches et des ondulés à compter. Et c'est vrai que la batailleuse, bah, on a cette production avec du lait de chèvre, de fromage, et d'ailleurs des fromages délicieux, fromage de chèvre. Je conseille à tout le monde.
C'est pas très bon. On va aller les goûter alors, ces fromages.
Allô, 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 allô.
GPS, ouais. T'es pas éteint ?
Bah non. Mais on arrive à la fin de l'émission, là. Et il y a un truc qu'il faut absolument pas que tu manques dans le coin si tu cherches un retour aux sources.
Ouais, c'est quoi ?
Alors, à visiter absolument les communautés hippies du Haut-Doubs. Ils élèvent leurs troupeaux à l'orée des grands bois. Ils fabriquent eux-mêmes leurs pantalons, leurs sandales et même leurs chaises. C'est important de savoir construire une chaise, une belle chaise qui tient longtemps. Et puis les nuits de pleine lune, il vénère les esprits de la forêt en brûlant des catalogues Ikea.
Bon, écoute, ça tombe bien, parce que le mec qui m'a pris m'a parlé d'une ferme un peu comme ça, là, la ferme de la batailleuse à Rochejean.
Non mais fonce, mec, hésite pas.
Je peux mettre mon sac derrière. Rencontre sur le pouce.
Donc on arrive sur les lieux de la ferme, la batailleuse, c'est marqué en gros avec le logo agriculture biologique.
Alors, vous me regardez s'il vous plaît? Je vous explique deux, trois choses avant qu'on parte. Donc les chèvres, en fait, c'est pas des chiens. Donc en fait, elles vont nous suivre. Donc vous allez jouer un peu au berger. Allez!
À la batailleuse, ça bosse dur.
Moi là, je vais finir la from.
Traite des vaches.
Une grosse sieste.
Animation pour la colo de passage. Cuisine pour le groupe d'enfants handicapés en séjour. Traite des chèvres. Fournée de pain.
Dedans, on peut mettre 60 kg de pain.
Donc c'est le pain qui descend au centre d'accueil en fait. Et puis chaque personne de l'équipe en prend pour sa consommation personnelle. Aussi.
Vente à la ferme.
On vend aussi avec la biocoop de Pontarlier et la map du coin.
Construire de nouvelles toilettes sèches.
Pour l'instant on jette tout ici, dans le premier bac. L'année prochaine on va être transféré dans le deuxième bac et au bout de 3 ans, il sera valable pour être utilisé au jardin.
Nettoyage des écuries. Réunion d'organisation avec réglage des conflits internes. Ménage. Récolte du basilic.
Là, il y a les betteraves aussi.
Éclaircir les carottes.
Citrouille, courgette, on en a un peu en ce moment. Les tomates, il faudra attendre l'automne en fait.
Entretien des tomates.
Début juin, il neigeait encore.
Donner à manger aux poules. Envoyer des mails. Faire à manger pour la colo. Se rencarder sur la météo.
Moi, le programme, normalement, c'était congé. Mais je vais les aider pour...
Terminer les foins.
Pour faire les foins, parce qu'il n'y a plus de...
Trouver de la farine bio pour le pain. Négocier de nouvelles terres.
Donc, je recherche des vaches Montbéliard cornues et bio.
Racheter une vache Montbéliard bio et cornue. En aider une autre à véler.
Elles ont un petit nom. Et on va essayer de trouver un lien entre la maman et la fille. Donc, sa maman s'appelle Belle de Nuit. Avec un dé, on a trouvé 2001.
Refaire la cuisine pour le groupe d'enfants. Refaire une réunion. Refaire le ménage. Encore une réunion. À la batailleuse, sa turbine. Une grosse machine qui s'arrête jamais.
Il nous enregistre.
Ouais, je vous enregistre pour la radio.
Ah, il y a que là-bas. Elle est où la voiture de la radio?
Il n'y a pas de voiture vu que je suis un reporter radio en autostop.
À pied?
À pied, ouais.
À pied?
Bah, en autostop.
Donc dès que tu fais du stop.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Perspicace en plus. Bravo.
Fais du stop.
Bon, t'as fini de te la péter devant les gosses là?
Bon, ça va, c'est mon GP, c'est cool. Hein.
Non, mais bon, là c'est la fin de l'émission. Position finale. Alors si tu veux être à l'heure la semaine prochaine pour aller goûter de l'absinthe, faut te mettre maintenant sur la route.
Goûter de l'absinthe?
Oui, on est à quelques minutes de Pontarlier. À Pontarlier, tu prends à droite et tu arrives dans le Val de Travers, le berceau de l'absinthe.
Je suis pas vraiment sûr de ton plan là, une fois de plus.
Bon, pour une fois, je dis pas des conneries.
Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road.
C'était « Je peux mettre mon sac derrière », une émission d'autoradio
d'Olivier Minot.
Avec la voix et l'itinéraire sonore d'Annabelle Brouard et le radio-guidage de JP, notre guide de position spéciale, alias Julien Dupont.
Ouais, avec un T.
On continue la route la semaine prochaine dans la vallée du Doubs, jusqu'au berceau de l'absinthe. Et d'ici là, si vous croisez des stoppeurs, prenez-les. Salut.
Salut.
Yes. Je peux mettre mon sac derrière ?